Bonjour, Copocas.
Bonjour et bienvenue sur le podcast Enfanter et Devenir, un podcast dédié au récit de naissance à soi et au monde. Naître à soi et naître au monde. Des temps de passage forts qui peuvent revêtir des réalités bien différentes. Je suis ravie de vous accueillir dans cet espace de parole qui se veut libre et authentique. Je m'appelle Laetitia Boivin. Je suis une femme multipassionnée parmi tant d'autres. Doula, créatrice de Maman de la Lune et éducatrice Montessori et Nature dans l'association Brin de Curieux. Je suis également la maman de trois merveilleux enfants qui a vécu des enfantements qui m'ont transformée. À travers ce podcast, je souhaite accueillir les femmes et les hommes qui le désirent à venir compter leurs enfantements. Libérer la parole, faire part de nos joies, de nos difficultés aussi, lever les tabous. Je suis profondément convaincue qu'à travers la naissance se jouent des changements incroyables pour l'humanité. Dans cet épisode 24, c'est la douce Manon qui vient offrir son récit. Doula et prof de yoga, Manon a choisi un titre fort éloquent. Elle vient nous conter la naissance de ses deux enfants, l'un en maison de naissance, l'autre à la maison. Chacune de ces expériences est venue mettre en lumière un aspect de la grossesse entre physiologie et sacré. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue Manon, j'ai grand plaisir à te recevoir pour écouter ton témoignage. Si tu veux te présenter.
Merci, je suis très honorée d'être ici. Donc je m'appelle Manon, j'ai 33 ans. Et je suis suisse, donc peut-être que vous entendrez mon accent. Je suis doula. Je suis aussi prof de yoga classique depuis 10 ans. Avec mon mari, on a une école de yoga et ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Et on a eu deux enfants, un garçon qui a 7 ans et une fille qui a 3 ans. J'ai envie de vous raconter mes deux accouchements. De mon fils et de ma fille.
Tu as envie de compter tes enfantements alors du coup, alors où tu commencerais ton récit?
Eh bien, je pense que je vais commencer au début de ma grossesse de mon fils. J'avais 25 ans quand je suis tombée enceinte et il était attendu, il était désiré. Et c'est une grossesse qui s'est très bien passée. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à être enceinte. C'était un bébé qui bougeait beaucoup dans mon ventre, un petit gigoton, comme on disait. Et j'avais un ballon de quête, quoi. Mon ventre, c'était vraiment une boule. Et tout le reste, j'avais pas pris de poids, donc j'étais vraiment toute fine avec une grosse boule. Et puis... j'ai beaucoup aimé cet état et puis c'est déjà une période où, enfin depuis toujours en fait, je cherche toujours à aller du côté naturel pour tout ce qui est déjà médical ou tout ce qui est de la santé. Je vais plutôt m'orienter vers les médecines naturelles. Et donc quand j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis vite intéressée aux options que j'avais pour l'accouchement, pour le suivi aussi. Et puis en Suisse, on a l'avantage d'avoir des maisons de naissance. Et du coup, j'avais même quelques connaissances plutôt, parce que mes amies n'étaient pas encore vraiment enceintes, mais j'avais des connaissances qui avaient accouché en maison de naissance. J'en avais entendu parler, ça me faisait envie. Et aussi, j'ai appris que je pouvais faire le suivi de grossesse avec les sages-femmes de la maison de naissance et pas forcément chez le gynécologue. Donc, voilà, comme j'étais déjà dans le yoga, déjà orientée comme ça, je me suis plutôt orientée là-dedans et j'ai lu pas mal de livres en lien avec le yoga et la grossesse ou bien la physiologie, l'anatomie. Ça me passionnait, ça m'intéressait.
Tu as découvert cet univers, on peut dire, parce que c'est tellement vaste que je pense que le mot univers est pas mal adapté, à ce moment-là.
Oui, complètement. Je connaissais pas du tout encore cet univers. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai accédé à tout ça. Et même si je donnais déjà des cours pour les femmes enceintes, je me rends compte aujourd'hui à quel point c'était... c'était pas encore assez bien orienté comme cours. Et maintenant c'est différent. Mais bref, du coup, oui, on est allé visiter la maison de naissance. On a une maison de naissance à 3/4 d'heure de route de chez nous, qu'on est allé visiter. Et ça nous a beaucoup plu. C'est en Suisse allemande. En fait, c'est une ville qui est bilingue. Donc, il y a la moitié des habitants qui parlent français, l'autre moitié suisse allemand. Et donc, les sages-femmes étaient soit suisse allemande, soit bilingue. Et elles étaient très sympas. Mais du coup, avec certaines, on ne pouvait pas vraiment communiquer parce qu'il y en a certaines qui ne parlaient pas français. Donc, pour les rendez-vous, on a pu prendre toujours rendez-vous avec des sages-femmes qui parlaient français. Et puis, on croisait les doigts pour qu'à l'accouchement, ce soit le cas. Et voilà, du coup, j'avance dans ma grossesse, tout continue à bien se passer. J'avais une amie qui était enceinte en même temps que moi, pour la première fois aussi. Et c'était chouette d'échanger un peu avec elle, de pouvoir vivre ça à deux. Elle avait son terme après moi et moi avant elle, mais au final, son bébé est né avant. Et puis moi, mon bébé est resté encore 9 jours dans mon ventre après le terme.
Waouh!
En Suisse, en fait, le terme est à 40 semaines. Donc pour vous, ce serait plutôt... il a dépassé de 2 jours, finalement.
Oui. Et c'est pour ça que je me disais, waouh, 9 jours. C'est vrai qu'en France, c'est, selon les pays, on compte 40, 41 semaines, voire 42 dans certaines régions.
C'est ça. Du coup, nous, c'est 40 semaines et donc il est né à 41 semaines et 2 jours. Mais comme il y avait quand même ce terme qui était fixé, ça commençait à me mettre la pression. Quand j'avais dépassé d'une semaine, les sages-femmes commençaient à me dire que on pouvait encore attendre, mais que qu'il fallait faire des contrôles plus fréquents, etc. Au final, elles m'ont proposé une technique. C'est un tampon hygiénique imbibé d'huile, donc de l'huile neutre, mais avec un peu d'huile essentielle, de clou de girofle et de cannelle, je crois. Et puis, je pouvais insérer le tampon dans mon vagin pendant 1 heure, et puis après l'enlever. Et donc, j'ai fait ça un soir. Et puis, le lendemain, on est allé faire une grande marche. C'était l'été, c'était début juillet. Il faisait beau, il faisait chaud. Et au final, le soir même, il y a eu les contractions qui ont commencé à arriver. Et je ne sais pas si c'est grâce à ce tampon ou grâce à la marche ou juste le fait qu'il était prêt. Mais toujours est-il que j'ai senti mes premières contractions pendant la nuit. J'ai attendu jusqu'au petit matin. Au petit matin, comme c'était la première fois, je ne savais pas trop à quoi me fier. J'ai appelé et elles m'ont dit, regarde, tu verras si ça s'intensifie. Attends encore à la maison jusqu'à ce qu'elles soient rapprochées toutes les 5 minutes. Et moi, elles n'étaient même pas encore régulières, quoi. C'était vraiment juste, j'avais senti qu'elles étaient douloureuses, mais pas plus. Et donc, on a passé toute la journée tranquillement à la maison. Je pouvais toujours faire des activités. C'était pas trop difficile à gérer. Et puis, le soir venu, toujours pas plus rapproché. On s'est couché. Et donc, 24 heures après ma première contraction, j'ai commencé à sentir que c'était un peu plus douloureux. Mais toujours espacé à 10 minutes. Et je voulais pas les rappeler en pleine nuit, donc j'ai encore attendu le petit matin. Puis quand même vers assez tôt, quoi, vers 5 heures, c'était l'été, donc il faisait déjà jour. J'ai dit là, j'ai envie d'y aller, quoi. Donc on les a appelés, on a dit qu'on arrivait, Et on a fait la route tranquillement, puisque j'avais des contractions toutes les 10 minutes au maximum, donc c'était pas trop pénible. Et arrivé là-bas, c'était hyper mignon, elles avaient mis des bougies, elles avaient fait un petit thé, c'était un trop bel accueil, quoi. Elles s'étaient levées tôt pour nous accueillir. Enfin, je sais plus s'il y en avait qu'une ou s'il y en avait deux, mais en tout cas, il y avait une sage-femme. Et elle nous a fait un monitoring, tout ça. Elle a vu que je commençais à dilater. Je devais être à 2 cm. Et puis, elles nous ont dit, ben, vous pouvez finir la nuit, si vous voulez vous recoucher un petit coup et tout. Donc, on s'est installé un peu dans nos quartiers, quoi. Il y avait un grand lit, c'était une belle salle avec une grande baignoire. Enfin, non, la baignoire, elle est à côté, mais en tout cas, une grande salle avec un grand lit. Et du coup, on a dormi le matin, enfin un peu plus tard dans la matinée, on a eu un bon petit déj. Vraiment, on était dorlotés, quoi. c'était génial.
L'hôtel 4 étoiles, ouais, petit déj, chérie. Ouais.
Ben, moi, ça allait, en fait. Je gérais encore bien, mais je commençais à appliquer un peu ce que j'avais appris, notamment en aptonomie. On avait fait de l'aptonomie avec mon homme. Et... du coup, il m'aidait, j'allais sur ses genoux, il me tenait les jambes, je faisais des A, et puis avec ses longs A, comme ça, je faisais passer les contractions, mais à chaque fois, je devais attendre 10 minutes jusqu'à ce qu'il y ait la suivante, quoi. Donc, on s'ennuyait presque. Et puis, toute la journée s'est déroulée comme ça. Les sages-femmes n'étaient pas tout du long avec nous, parce qu'en fait, elles avaient leur rendez-vous de la journée. Elles ont continué leur vie de maison de naissance à accueillir des futures mamans et tout ça dans d'autres pièces. Et puis elles venaient voir si ça allait de notre côté. Elles disaient qu'on gérait très bien et qu'il fallait juste continuer comme ça. Et du coup, là, ça faisait bientôt... ouais, 2 jours que j'avais commencé mes contractions, en fait. Et le soir, ça a commencé à être plus douloureux, vraiment. Ça a commencé à m'entraîner, quoi, à me prendre dans ces vagues, à partir un peu dans un autre monde. Je pense qu'il y avait aussi la fatigue. Et je gérais de moins en moins bien la sensation de douleur. C'était de plus en plus intense et je voulais absolument aller dans l'eau, mais elle refusait en fait de me mettre dans la baignoire parce que j'étais pas assez dilatée, elles avaient peur que tout s'arrête, quoi. Et là, quand le soir ça a commencé à être un peu plus dur, elles ont accepté de me faire couler un bain et puis je suis allée dans ce bain et c'était très agréable, mais c'est vrai que ça n'a pas beaucoup amplifier la chose. Et par rapport au fait que je restais à toutes les 10 minutes, elles ne savaient pas trop comment l'expliquer. Elles m'ont juste dit que ça devait être mon rythme, que c'était comme ça. Et puis elles vérifiaient que le bébé allait bien. Et puisque tout allait bien, elles ont dit ben, on laisse faire, quoi, c'est ton rythme. Et on commençait quand même à en avoir un peu marre. Et puis quand je suis sortie de cette baignoire, ça faisait peut-être 2 heures que j'étais dedans. Elle m'a fait un toucher pour voir où j'en étais et ça n'avait pas bougé d'un centimètre depuis plusieurs heures. J'étais autour des 7 centimètres, je crois. D'accord. Et nous, on espérait qu'il naisse le 3 juillet. D'accord. Et là, il était gentiment... 21h et puis on était il va naître le 3 juillet et à chaque fois on voyait les heures passer, on se disait qu'il y avait moins en moins de chance.
Il y avait une raison particulière à cette date?
En fait, c'était plus c'était pas hyper important, mais on avait fait des calculs de numérologie et okay. Puis la date était plus favorable au niveau de la numérologie.
Excellent.
Ouais. Et voilà, du coup, ben, on espérait, mais ça nous donnait aussi un peu, ça me donnait un peu une motivation pour que ça bouge, quoi, pour que ça avance. Et au final, elle a compris en faisant un toucher que le bébé était un peu mal engagé. Comme je vous l'ai dit, c'était un petit gigoton, il bougeait vachement, même pendant l'accouchement, pendant les vagues, entre les vagues, il n'arrêtait pas de faire le fou dans mon ventre. Et du coup, sa tête était un peu mal engagée dans mon bassin quand elle est descendue dans le bassin, malgré que j'avais toujours, heureusement en fait, j'avais toujours le liquide. Ça faisait qu'il pouvait encore bouger. Mais du coup, c'était peut-être l'explication que ça dilatait plus. Il était un petit peu en trans... Enfin, je ne sais plus comment on dit, mais la tête...
Sur le côté,
oui. Mmh. Quand même le crâne vers l'avant, mais tourné d'un quart de tour.
D'accord. Trop.
Et quand elle a vu ça, elle était adorable. Elle nous a sorti un bassin en plastique, un bébé. Elle a commencé à tout nous expliquer. Moi, j'étais crevée. J'étais déjà dans ma bulle. J'ouvrais de temps en temps les yeux pour voir ce qu'elle voulait me dire. Et du coup, elle m'a expliqué qu'elle allait me faire des positions, des postures pour essayer de désengager le bébé. Et qui se tourne, qui se remette juste. Donc, elle m'a fait mettre à quatre pattes avec les coudes sur le lit, enfin les coudes plus bas que le bassin, pour que je sois un petit peu en dévers.
Pour que les fesses soient plus hautes que le ventre, voilà. Et que mon bébé puisse remonter un peu et mieux se tourner, quoi.
Exactement, ouais. Et elle m'a dit, elle était vers moi là tout le long, et on a attendu 5 contractions, donc presque 50 minutes puisqu'elles étaient toutes les 10 minutes et j'étais pas bien dans cette posture mais je tenais parce qu'il fallait que je tienne quoi parce que il fallait que ça se passe, il fallait qu'il se désengage sinon je devrais partir à l'hôpital et j'avais vraiment pas envie et du coup mes jambes commençaient à trembler, j'étais vraiment crevée quoi.
Elles t'ont pas mis de pression par rapport à ça. Toi, tu le savais qu'il faudrait que tu ailles à l'hôpital si rien n'avançait. Ou c'est elles qui t'ont...
Ouais. Elles m'ont pas du tout mis de pression. C'est génial. Et c'est vraiment, c'est moi en fait qui me disais, qui commençais à être fatiguée et à me dire. Enfin, il y a même des moments où je disais, je veux aller à l'hôpital, mais mais au fond de moi, je voulais pas du tout y aller. Et ils ont bien remarqué. Et du coup, ils m'ont pas. Ils n'ont pas entendu ce cri d'appel comme un vrai cri d'appel. Mais bref, après avoir été dans cette posture, elle m'a fait me mettre encore couchée sur le côté pour qu'une fois qu'il était remonté, ça attire un peu son dos et sa position dans le bon sens. Donc j'étais couchée sur le côté gauche pendant aussi presque une heure. Et là, c'était aussi horriblement douloureux. D'ailleurs, à ce moment-là, je me suis dit, mais je comprends... Pourquoi les femmes qui doivent accoucher, elles demandent une péridurale ? Parce que vraiment, là, coucher, je supportais pas, quoi. Et je tremblais, et vraiment, je me réjouissais de pouvoir bouger, mais je l'ai fait parce que je faisais confiance à ce qu'elle m'a disait. Et j'ai bien fait, parce que ça a vraiment fonctionné. Quand elle m'a dit, bon, essaye de te relever, de bouger un peu... je me suis mise à quatre pas, je me suis redressée et pop, direct, j'ai perdu les os, quoi. Vraiment, okay. Je pense qu'il y a eu, il s'est engagé, il a mis une pression dans le bassin et ça a fait percer la poche. Et c'était vraiment une victoire pour nous de voir que ça avait fait bouger quelque chose, quoi. Et j'ai senti, cette sensation de perdre les os. Tout à coup, ça a mis vraiment plus de pression dans le bas. J'avais l'impression que ça poussait, en fait. Très vite, je ne savais pas si c'était vraiment ça que je devais ressentir quand on sent que ça pousse. Mais je leur ai dit, écoutez, je sens comme si ça pousse. Puis elles m'ont écouté. Elles ont dit, peut-être, ok. Et moi, j'avais envie d'aller dans l'eau, donc je suis retournée dans l'eau. Et, Et j'ai senti que vraiment ça commençait à pousser. Donc j'ai essayé de me mettre dans une position dans l'eau où j'étais bien. Et le mieux, j'étais à quatre pattes. Je me tenais au rebord de la baignoire avec les mains. Et puis j'ai les coudes appuyés contre la baignoire à l'intérieur. Et puis j'arrivais à quatre pattes comme ça à pousser mes coudes vers l'avant et mes pieds dans le fond de la baignoire.
D'accord, t'avais besoin d'être calée.
Ouais, j'étais vraiment calée, quoi. Par contre, mes contractions étaient toujours espacées à 10 minutes. Et du coup, j'ai commencé à pousser. J'avais cette idée vraiment qu'il fallait pousser. Donc, j'avais jamais entendu parler qu'on pouvait ne pas pousser. Elles m'ont rien dit spécialement. Elles m'ont pas demandé de pousser. Mais moi, j'avais vraiment cette idée. Ah, je vais arriver. Et puis, je m'en réjouissais, en fait, de ce moment. Donc, là, je sentais que c'était un peu différent. Alors, je voulais vraiment le vivre. Et donc, je poussais. Mais tout en faisant quand même des techniques que j'avais appris et lues de souffler en poussant. Et puis, bon, il se passait rien, quoi. Enfin, je poussais. Et après, j'attendais 10 minutes. Et bon, je ne l'ai pas encore vraiment dit, mais j'étais complètement dans ma bulle à ce moment-là. Je dormais en chaque contraction. J'avais tout le temps les yeux fermés. Je ne les voyais quasi pas. Il faisait nuit. Il m'avait mis des bougies. C'était hyper beau comme ambiance. Et moi, j'étais loin, loin, loin. J'étais crevée et dans ma bulle. De temps en temps, j'ouvrais les yeux, je voyais mon homme, je voyais la sage-femme, ça me rassurait et je replongeais dans mon demi-sommeil en attendant que la suivante vague arrive enfin, quoi. Et quand elle arrivait, je poussais comme une folle et puis je sentais qu'il se passait rien et après je replongeais. Ça a duré comme ça assez longtemps quand même. Et au bout d'un moment, elle voyait qu'il ne se passait pas grand-chose. Et là, il y a la deuxième sage-femme qui est arrivée de chez elle, je pense. C'était la nuit, donc la première était toute seule pendant toute la nuit. Et puis la deuxième est arrivée, je pense, vers 2h du matin. Donc 48 heures après ma première contraction. Le 4 juillet. Et elle a dit... qu'elle proposait d'essayer peut-être d'activer un petit peu les choses en me proposant du spray nasal à l'ocytocine. Donc c'est un spray, normalement je crois que c'est pour l'allaitement plutôt, pour déclencher l'éjection du lait. Mmh. Et tu peux le sprayer dans le nez, c'est beaucoup moins intrusif qu'une injection d'ocytocine. Et donc elles m'ont fait ça avec aussi de l'homéopathie. Elle me faisait un spray et juste après, quoi, dans les quelques secondes qui suivaient, je sentais une contraction qui venait directe. Et en fait, j'adorais ça, quoi, parce que je sentais que je pouvais pousser un petit peu sans que après ça s'arrête pendant 10 minutes. Et alors, elle me faisait le spray, je sentais ma vague, je poussais et après je me reposais. Et après, je disais, le spray. Elle me refaisait le spray. Et vraiment, je pense pendant une heure, on a fait ça pour que finalement, je puisse aller avec mes doigts sentir le crâne du bébé qui commençait à être là. Et ça m'a redonné une sacrée force de sentir ses cheveux, sentir son crâne. Il a fait quelques allers-retours. Et puis, finalement, elle m'a dit, mais je crois que... cette fois, il faut que tu pousses sans souffler en même temps. Il faut que tu prennes une grande inspiration et que tu bloques le souffle et que tu pousses. Parce qu'elle voyait que ce n'était pas assez efficace ce que je faisais. Et donc, je l'ai fait et j'ai senti que là, ça poussait vraiment plus fort. Et j'ai poussé de toutes mes forces, mais vraiment, mais comme jamais, quoi. Mon homme, il me poussait les épaules en même temps que je me poussais à la baignoire, en même temps que je me calais dans mes jambes. Et la tête est passée. Et En plus, je ne savais pas ce que je devais faire après, une fois que la tête était passée. Et en même temps, je leur disais, je fais quoi? Puis en même temps, je continue à pousser. Et puis, ploum, il y a tout le corps qui est sorti d'un coup, quoi. Dans la même contraction, il y a la tête et le corps qui sont sortis d'un coup, comme un boulet de canon, dans l'eau. Et comme j'étais à quatre pattes, il est sorti derrière moi. Et la sage-femme, elle m'a dit, reste comme t'es. Elle l'a laissé dans l'eau, elle me l'a glissé entre les jambes. Et je l'ai vu arriver en dessous de moi. C'était tellement beau. Mm-hmm. J'ai vu ce petit poisson nager dans l'eau et venir tout libre dans l'eau, flotter en dessous de moi. Et j'ai pu le prendre moi-même. Elles m'ont guidée pour que je le sorte bien de l'eau. Et je l'ai pris dans mes bras, je me suis assise dans la baignoire. Waouh, c'était tellement fou de l'avoir enfin là, après tout ce temps, après presque 50 heures. Et donc, il était tout plein de vernix, tout collé à moi. On s'est regardé avec mon homme qui était en dehors de la baignoire, mais qui est venu tout près de nous. Et c'était un moment vraiment magique. J'ai pas pleuré, j'étais juste heureuse. Même j'ai pas pleuré de joie, même si ça peut m'arriver, mais là c'était autre chose, quoi. C'était plus de l'extase. Et on savait pas le sexe, on n'avait pas voulu le savoir. Et du coup, on a découvert à ce moment-là que c'était un petit garçon. Et je sais plus, je crois qu'on lui a tout de suite donné son nom. C'était peut-être aussi un peu une idée que j'avais, une sorte de cliché qu'il fallait, à peine qu'on l'avait vu, il fallait lui donner son nom. Et donc on hésitait un peu, je crois, entre deux prénoms, mais là on s'est regardé avec mon mari, on a dit c'est Joachim. Ouais, c'est Joachim. Et on lui a souhaité la bienvenue. Et puis on est sorti de l'eau alors que j'avais encore le placenta à l'intérieur et le cordon relié au bébé. On a fait tout un petit micmac pour emballer le bébé. Les sages-femmes, elles l'ont emballé, elles l'ont porté pendant que mon mari il m'emballait et qu'il m'aidait à sortir de la baignoire. Et on a marché jusqu'au lit comme ça en étant relié par le cordon. Et puis je suis allée m'installer dans le lit avec le bébé sur moi. On voulait attendre que le cordon finisse de pulser. Et donc on a attendu, je sais pas, peut-être 20 minutes comme ça, à le regarder, à le toucher, à l'observer, à le rencontrer.
Est-ce que c'était encore le 3 du coup?
Ben non, c'était le 4 juillet à 3h41 du matin.
Ok.
Ouais, ouais. Ouais. Mais au niveau numérologique, on est encore très proche du 3 juillet, donc il a un peu des deux.
Okay.
Et du coup, on a aussi, c'est de la numérologie indienne, on a aussi pu choisir de quelle lettre on a utilisé pour écrire son prénom, pour faire que ça s'ajuste avec sa date de naissance. Donc,
d'accord.
Même s'il est né à la date moins favorable, on a pu ajuster avec le prénom et les
d'accord.
lettres. Donc, comme Joachim, c'est un prénom qui s'écrit de plusieurs manières différentes. On a cherché la meilleure composition du prénom. On est allé loin quand même.
Yes.
Et après, ben, on a coupé le cordon. Mon mari a coupé le cordon. Et puis moi, j'avais été déchirée. Il avait une grosse tête. C'était un gros bébé. Il faisait 3,9 kg. Et il avait vraiment une grande tête. Et bah c'était un peu la seule chose qui me faisait peur, en fait. J'avais pas peur de l'hôpital, pas peur des césariennes, en fait. J'y pensais même pas, je pensais bien que ça m'arriverait pas, mais j'avais peur d'être déchirée, et c'est ça que j'ai vécu. Donc je sais pas si j'avais quelque part cristallisé une peur au point qu'elle m'arrive. Et puis je pense que c'est aussi la manière dont j'ai poussé et dont il est sorti d'un coup, c'est sûr que voilà, ça a fait cette déchirure. Donc mon mari a pris le bébé contre lui, il a eu un petit moment pour le rencontrer pendant qu'elles m'ont recousu. Je crois qu'il avait déjà tété quand même, on avait déjà fait la première tétée pendant que le placenta sortait. Et j'ai adoré la sensation du placenta qui sort, en fait. C'est fou, mais malgré que que tout le travail a duré des heures, j'ai trouvé que c'est allé trop vite le moment où il est sorti, quoi, comme il est sorti d'un coup. Après, le fait de sortir le placenta, ça m'a fait comme un petit rappel et une sensation comme un baume qui passe par là et tout chaud, qui guérit toute la zone, tout le passage. J'ai vraiment adoré ça.
Ouais, c'est rigolo parce que moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé hyper doux à chaque fois, la naissance du placenta aussi.
Ouais, hein,
des fois, on me dit, mais c'est bizarre, mais non.
Ben voilà, on est pareil. Et elles m'ont recousu, et puis on a aussi, après, on a regardé le placenta, quand la sage-femme le regardait pour voir si tout était là, on est allés tous ensemble regarder ça, et j'ai adoré, je trouvais ça génial de voir tout ça. On ne m'y avait pas préparé avant, mais là, sur le moment, elles me l'ont proposé, et puis j'ai trouvé que c'était super. On avait juste décidé de prendre un petit morceau pour faire l'homéopathie. Donc je savais quand même que ça existait, le placenta, et qu'il y avait cette option. Donc c'est ça qu'on avait choisi, mais je ne savais pas encore qu'il y avait plein d'autres options. Mais au moins je l'ai vu et on a pris ce petit morceau. Et puis je me souviens aussi qu'on a bu un gros cacao froid et qu'on est allé se coucher. C'était un peu la récompense, ce cacao. Et on est allé dans notre chambre de la maison de naissance avec notre bébé. On a dormi tous les trois dans le même lit. C'était magnifique. Et ensuite, les trois jours qu'on suivit, c'était génial. La maison de naissance où on était vraiment chouette à ce niveau-là parce que elles sont aux petits soins, quoi. Elles font des magnifiques petits déj avec plein de bonnes choses. Et puis tous les repas sont servis, on peut vraiment être dorloté. Et pour le mari, en fait, c'est payant, tout ce qui est service. Donc le fait qu'il dorme sur place et qu'il soit nourri sur place, c'est payant. Mais pour moi, tout était compris, tout est pris en charge par l'assurance. Et du coup, c'était 3 jours où on a pu vraiment se poser, se rencontrer, c'était chouette.
Et du coup, là, contrairement à la maternité, vous êtes vraiment entre vous, c'est pas 3 jours, vous avez des visites ou...
Alors, on pouvait recevoir des visites, c'est un peu comme un appartement.
Okay.
Au rez-de-chaussée, il y avait la salle d'accouchement et tout ça, la baignoire. Et au premier étage, c'est un appartement des familles, donc il y a 2 ou 3 chambres, je crois. Et puis, il y a un salon commun. Et la journée, on peut recevoir les visites, soit dans notre chambre, soit dans le salon commun.
D'accord.
Donc, on a eu quand même des visites. Et puis, moi, j'avais quand même hyper mal au périnée avec ma cicatrice. C'était quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout, toutes ces sensations-là. Et elles ont... aussi été aux petits soins pour ça. Elles avaient une technique, je la donne ici, c'est qu'elles mettent du gel à l'arnica, le gel de Velleda à l'arnica sur une lingette ou une compresse, puis elles la mettent au congélateur. Et elles les préparaient à l'avance et moi je pouvais aller dans le congélateur chercher mes compresses et les mettre directement sur la cicatrice, et c'était vraiment très bénéfique. Et en fait, voilà, on avait cette idée qu'après 3 jours, on allait rentrer. Et puis mon mari, il a fait qu'une nuit avec nous. Les 2 autres nuits, il est rentré, il faisait les allers-retours parce que ça lui faisait du bien aussi de se reposer à la maison après ces 2 nuits blanches. Et puis parce que c'était payant aussi, donc ça nous a économisé un peu d'argent. Et puis il y avait une femme qui habitait dans l'autre chambre de cet appartement qui était là depuis 2 semaines. Et vraiment, je ne comprenais pas en fait pourquoi ça faisait 2 semaines qu'elle avait accouché, pourquoi elle n'était toujours pas rentrée chez elle. Et quand j'y repense maintenant, je me dis, vu comme elles étaient aux petits soins pour nous et vu ce cocon que c'était d'être là-bas, aujourd'hui je la comprends vraiment. Elle avait vraiment raison de faire ça, quoi. Parce que nous, on est rentrés à 3 jours et j'étais en pleine montée de lait. Et j'avais les seins énormes, c'était vraiment des bombes explosives et hyper douloureuses. J'avais de la fièvre et on est parti à ce moment-là. Et en fait, s'en est suivi un baby blues qui a duré une semaine. Vraiment après le fait de rentrer, d'être livrée à nous-mêmes, seule à la maison avec notre bébé, ça n'a pas été facile. Je m'étais vachement renseignée, préparée pour le côté anatomie, physiologie de l'accouchement. Et en fait, tout le côté émotionnel, j'avais même pas conscience qu'il allait venir. Et le postpartum immédiat, ça a été difficile. Ouais. Alors j'avais une sage-femme qui venait à la maison, mais voilà, elle venait une heure par jour, puis après... Après, on était tout seul, quoi. Et on ne savait pas du tout ce que c'était que d'être tout seul avec un bébé. Et pour mon mari aussi, c'était très bouleversant. Il avait besoin de sortir, il avait besoin de prendre l'air. Et il n'arrivait pas à rester tout le temps ou à prendre soin de nous parce que lui-même, il était dans des chamboulements. Donc, j'en rappelle qu'il s'est mis à faire de la... nage, de la natation, il allait tous les jours à la piscine, il avait besoin de ça. Et puis, je comprenais pas ce qui m'arrivait, mais j'étais triste, j'avais envie de pleurer, je pleurais tout le temps. Et puis, je regardais mon bébé, mais j'avais de la peine à me rendre compte que c'était lui. Comme si tout ce que j'avais pu imaginer, c'était pas lui, en fait, c'était mon imagination. Et puis là, le fait qu'il était là, qu'il était concret, que c'était un garçon, qu'il s'appelait Joachim, j'ai mis plusieurs jours à vraiment m'habituer à le rencontrer. Et en fait, je culpabilisais de ça, parce que je croyais que je devais tout de suite être heureuse et savoir y faire. Et du coup, ça me bouleversait à l'intérieur d'avoir tous ces doutes. Et puis finalement, c'est allé mieux quand j'ai réussi à en parler, tout simplement. J'en ai parlé à la sage-femme, je crois, mais aussi surtout à mon mari, parce que je lui disais même pas. Et puis lui aussi, il ne me disait pas tout ce qui vivait en lui. Ouais, et du coup, quand on a réussi à se dire, en fait, à se le dire que ce n'était pas une période facile, qu'on était chamboulés, on s'est senti tout de suite moins seul parce qu'on a vu que l'autre, il le vivait aussi. Et puis,
ça a enlevé de la pression à ce moment-là.
Quoi. Ouais, exactement. Et puis à partir de là, en fait, tout est mieux allé, du coup. Parce qu'on est redevenu une équipe et on était ensemble dans ce qu'on vivait, quoi. On n'était pas seuls. Ouais. Et donc, voilà, il y a des jours, quoi. Ça va, ça n'a pas duré long, mais ça, je ne connaissais pas du tout tout ça. J'ai aussi voulu comprendre ce qui m'arrivait. Donc, je suis allée chercher sur Internet ce que c'était. J'ai compris que c'était un baby blues. J'ai déjà pu mettre des mots dessus, ça m'a fait du bien. Et puis, j'ai des infos, mais j'en ai pas trouvé beaucoup, quoi. Alors, peut-être que je regardais que sur Internet, mais j'avais pas conscience peut-être qu'il y avait des livres, et même, il y en a ça, en fait. Peut-être que maintenant, il y en a plus, mais il y a 7 ans, il y en avait pas tant que ça.
Ben, en fait, c'est hyper récent, et c'est vrai que chaque année, il y a quand même beaucoup de choses qui se font actuellement, et c'est tant mieux, parce qu'on en manquait cruellement, et comme tu dis, il y a 7 ans, c'était pas les mêmes ressources, quoi.
C'est ça, ouais. On est beaucoup sortis. Bon, c'était l'été. On avait prévu aussi d'aller à une maison au bord du lac. Et on n'a pas vraiment fait de postpartum cocon à la maison. On a très vite fait plein de choses. Et puis après, j'ai eu le muguet. Et j'avais les seins en feu, en fait. C'est pas lui qui l'avait dans la bouche, le bébé, mais c'est moi qui avait le muguet sur les mamelons. Et on avait des amis, et voilà, on était à peut-être un mois déjà quand même de l'accouchement, mais j'étais pas reposée, quoi. J'avais eu un accouchement qui avait duré 3 jours et je me suis pas du tout assez reposée. Et du coup, un mois après, tout a explosé dans ce muguet. J'avais des douleurs horribles, je pouvais plus l'allaiter. J'ai commencé à tirer mon lait, à mettre des tétrelles. Enfin, c'était hyper galère. J'ai fini à l'hôpital pour parce que tout le monde était en vacances. Mon gynécologue, ma sage-femme, personne n'était là pour me dire ce que j'avais. Et donc, j'ai fini à l'hôpital. Et c'est eux qui ont dit que c'était un muguet et qui m'ont donné les crèmes qu'il fallait. Et puis, voilà, je me rends compte maintenant avec le recul que... Tout ça, c'était vraiment aussi le fait de ne pas s'être reposé, quoi. Et je vais avancer un peu, parce que je veux encore parler de ma fille. Mais voilà, en fait, au lendemain de l'accouchement, quand j'étais encore dans la maison de naissance, je voulais devenir sage-femme, quoi. J'ai eu vraiment une telle admiration pour tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle connaissait, comment elle m'avait accompagnée. J'ai eu vraiment comme une révélation, c'est ça mon destin, je veux être sage-femme. Et puis j'étais, voilà, c'était le lendemain de l'accouchement, quoi. Donc j'étais encore complètement... À fond d'hormones. Et très vite, je me suis rendu compte que j'avais un petit bébé, que je ne pouvais pas reprendre 4 années d'études comme ça. Et je me suis souvenue que ça existait, les doulas. J'avais entendu parler d'une doula postpartum en Amérique, qui était une fille que j'avais rencontrée en Inde. Et c'est comme ça que je connaissais les doulas. Et du coup, je me suis renseignée si ça existait en Suisse. Et c'est là que j'ai vu que la formation des doulas suisses existait. Et vraiment, je me suis dit, je vais faire ça, quoi. J'ai envie de connaître, d'apprendre et de faire partie de tout ce monde-là. Et donc, j'ai suivi la formation... Un an après, parce que bon, je les ai appelées quand même très vite après la naissance de mon bébé, puis elles m'ont dit, bah, là, les inscriptions sont complètes, mais de toute façon, je pense que ton bébé qui a 2-3 mois, il va préférer être avec toi, et puis tu pourras venir t'inscrire l'année prochaine, quoi. Et j'ai fait la formation de doula, en 2014-2015, et mon fils est né en 2013, et puis on pensait pas tout de suite à faire un autre enfant. En fait, je crois que j'avais besoin, justement, ça m'avait tellement fatiguée que ça a mis, puisque je me suis pas reposée après l'accouchement, ça a mis 1 ou 2 ans à ce que vraiment je me sente de nouveau... moi-même, que je me sente posée, enfin voilà, c'était assez long. Et aussi quand il a eu 3 ans, vraiment on a remarqué un sacré cap où il n'y a plus les couches, on peut l'emmener où on veut sans prendre des petits pots, sans avoir des couverts spéciaux, des chaises spéciales, enfin voilà, c'est à 3 ans ils ont quand même une nouvelle autonomie. Et nous, on avait l'impression de revivre, d'avoir un nouveau souffle. En fait, la vie, elle peut de nouveau être comme avant. Et c'est là qu'on s'est senti prêt pour avoir un deuxième enfant. Et du coup, comme j'avais toute la... Ben, le bagage d'être doula, d'avoir accompagné d'autres femmes. Je donnais mes cours de yoga aussi maintenant, beaucoup plus orienté de faire le lien avec le bébé, de préparer mentalement, émotionnellement. Et j'ai accédé avec ma nouvelle grossesse plutôt à tout l'aspect sacré de la maternité. Mon fils, j'avais vraiment plutôt orienté le côté physiologie. Et puis là, cette nouvelle grossesse, J'étais à fond dans le sacré, dans la pleine conscience de faire chaque chose en conscience. Et même la conception, quand on savait qu'on voulait ce nouvel enfant, et quand on l'a conçu, on l'a fait en conscience, on l'a accueilli cette petite âme qui allait se joindre à nous. Et dès les premières semaines, je savais que j'étais enceinte, j'ai commencé à me connecter à elle. C'était vraiment plus dans le côté spirituel, on va dire. Et j'ai de nouveau eu une très belle grossesse. Cette fois, j'avais 29 ans. Cette fois, on voulait savoir le sexe. Et puis, en fait, on voulait faire aussi un minimum d'échographie. Donc, les deux échographies où on aurait pu le savoir, elle s'est cachée. On n'a pas pu savoir. C'était une coquine. Cette fois, moi, avec justement tout ce bagage de doula, j'avais commencé à m'intéresser à l'accouchement à la maison. Et même pour le premier, je m'étais posé la question, mais très vite, je m'étais dit « Oh non, je veux pas que mes voisins, ils m'entendent ». J'avais trouvé des excuses un peu comme ça. Et puis là, par contre, avant même d'être enceinte, j'avais déjà travaillé mon homme à corps et à cri pour qu'il se prépare à ce que ce soit un accouchement à domicile si on avait un deuxième enfant, quoi. Et donc là, on était hyper motivés. On a trouvé le contact d'une sage-femme. Il y en a peu chez nous dans notre région, même si en Suisse, c'est quand même bien plus fréquent d'avoir des sages-femmes à domicile. Celle qu'on a trouvée, elle est aussi suisse-allemande et elle habitait à plus d'une heure de route. Mais elle était géniale. Et donc, on a bien connecté et elle a accepté de nous accompagner. Et donc, j'ai eu une belle grossesse de nouveau. Je faisais des petits rituels pour me connecter un peu à ce bébé parce que c'est vrai qu'en étant maman, en travaillant... J'avais envie quand même de pas louper les étapes de la grossesse. Donc, j'ai fait un bâton de grossesse. Chaque mois, je rajoutais un élément sur mon bâton, comme les bâtons de parole, mais pour la grossesse.
Comme les bâtons de lune aussi.
Voilà, ouais, je m'étais inspirée de ça, des bâtons de lune. À 6 mois, quand j'étais enceinte de 6 mois, j'ai fait une retraite vipassana. C'est une retraite de méditation en silence qui dure 10 jours. J'avais entendu deux amies, deux femmes enceintes qui l'avaient fait enceinte et qui avaient aimé cette expérience. Puis ça m'avait vraiment fait envie. Et comme j'avais déjà fait une par le passé avant d'être maman, je savais ce que c'était, je savais que j'étais capable et j'avais vraiment envie de le vivre enceinte. Et donc j'ai pu le faire et c'était vraiment un moment magique de ma grossesse, quoi. Ça a été une expérience vraiment très forte où je suis allée rencontrer mon bébé par l'aspect plus intuitif, on va dire, intuitif et spirituel. Dès la première nuit là-bas, dans ce domaine, je ne sais pas comment on l'appelle, dans cette retraite, je me suis réveillée le matin et elle m'avait dit qu'elle était une fille. Mais vraiment, j'avais la phrase dans ma tête, je suis une fille. C'était une évidence, quoi. Et à partir de là, même si j'avais déjà eu un peu l'intuition que c'était une fille, là, j'en étais convaincue. Et pendant toute cette retraite, pendant ces 10 jours, j'y étais avec elle en sachant ça, déjà. Et puis... à un moment donné, j'ai eu vraiment une vision. Donc, je méditais en mettant l'intention et toute la concentration sur mon ventre. Et j'ai vu et j'ai compris toute la matrice. C'était vraiment une vision, quoi. Elle était devant moi, un peu en lumière, comme si je voyais mon utérus, mais devant moi en lumière. Avec le bébé dedans, et je pouvais zoomer, je pouvais la tourner, je pouvais aller la regarder sous toutes ses coutures, j'ai vu son visage, mais c'était pas qu'une vision, c'était vraiment inscrit d'une d'une compréhension du fonctionnement de toute la matrice. Et ça m'a donné une confiance de fou. Et quand je suis redescendue de cette vision, j'étais je planais complètement. J'étais trop contente. Et j'ai eu encore une autre vision d'une vie antérieure pendant cette retraite où j'ai vu une vie antérieure qu'on a vécue, ma fille et moi. Je l'ai reconnue, enfin, j'ai vu que j'étais déjà sa mère à l'époque et qu'elle était déjà ma fille. Et voilà, c'était vraiment dingue, quoi. Et quand je suis revenue de cette retraite, dès que j'ai recommencé à parler, que les gens me demandaient « Ah, vous savez si c'est une fille ou un garçon ?» puis que je disais « Non, on ne sait pas », ben, ça me remettait le doute, du coup. J'avais plus cette confiance intuitive, quoi. Ça, je me rends compte que il faut vraiment...
J'ai l'impression que quand c'est comme ça, on est un peu entre deux mondes, tu vois, comme tu disais, en fait. Je pense qu'on est très nombreuses, plus j'en parle, moi, plus je suis impressionnée du nombre de femmes qui... et des fois d'hommes aussi, qui le savent dès la conception, que le bébé est là, qui l'ont senti. Et en même temps, ben, tant que t'as pas un truc scientifique qui valide quelque part, c'est difficile de se lancer et dire, bah oui, je sais.
C'est ça, ouais. Mmh.
Ouais.
Et du coup, je trouve que c'est génial de pouvoir se donner le temps d'être dans cet autre monde, là, d'y avoir été pendant 10 jours. Ça m'a aussi tellement boosté pour l'accouchement. Quand je faisais des petites marches, des balades, entre les méditations, je regardais les fleurs et... comme il y avait plusieurs marches par jour, je voyais les fleurs s'ouvrir à midi, être grandes ouvertes, et puis je leur tenais ça pour des visualisations, pour ouvrir le col. Enfin voilà, j'étais vraiment connectée à tout ça. Voilà, au cycle, au rythme de la nature. Et puis ça m'a vraiment aidée de pouvoir prendre le temps de me mettre dans ce monde-là pendant la grossesse. Et pour l'accouchement, bah déjà j'ai fait aussi un blessing way que j'ai trouvé super de vivre. Autant j'en avais déjà vécu en tant que facilitatrice ou en tant que participante, mais de le vivre pour moi, ça a vraiment aidé à préparer l'accouchement à la maison, parce que même si j'étais bien préparée pour tout ce qui était connaissances et techniques et tout ça, j'avais besoin de confiance. Et elle m'avait, toutes les amies que j'avais invitées m'avaient dit des mots puissants de confiance. On les avait écrits sur une bougie et tout ça, ça m'a aidée, je trouve. Et chez moi, j'avais installé un petit hôtel. On avait une chambre qui était normalement notre chambre de yoga. On l'avait préparée un peu pour l'accouchement. Donc j'avais fait un petit hôtel avec toutes les intentions de mes copines, avec des phrases que je m'étais écrites, avec un mandala que j'avais dessiné. On avait des bougies, de l'encens. Voilà, on voulait vraiment un accouchement sacré, quoi, et en pleine conscience. Et donc, quand le terme est arrivé, à 40 semaines, elle n'était pas encore née. Et j'ai dû faire une échographie. La sage-femme m'a demandé d'aller en faire une pour les assurances. Il fallait pouvoir prouver que j'avais une échographie à cette date. Et donc, on a su son sexe à ce moment-là, quelques jours avant sa naissance. Et tout allait bien, sinon. Et donc, ça m'a aussi boostée, parce que je me suis dit, ben voilà, mon intuition, elle était juste. Et tu peux te faire confiance, quoi. Ça, c'était chouette. Et puis, quand le travail a démarré, j'étais, je ne sais plus, je crois, 40 semaines et 2 jours. Un peu comme mon fils. Non, 41 semaines et 2 jours. Attends. Non, c'était comment avant? Je vous ai dit, il avait dépassé de 9 jours. Ouais, ben elle aussi, elle a dépassé de 8 jours le terme. Donc, ça fait 41 semaines et 1 jour.
D'accord.
Et on avait demandé à mon fils, qui avait 4 ans du coup, s'il voulait être présent. Et puis il avait dit non. On avait pas mal discuté, on lui avait expliqué comment ce serait. Et puis il était assez clair qu'il voulait pas être là. Et il se réjouissait d'aller chez ses grands-parents parce qu'il adorait aller chez eux. Donc quand on lui a dit « Tu veux être là, voir maman accoucher ou tu préfères aller chez tes grands-parents », il a tout de suite choisi les grands-parents. Donc il y a eu une nuit où j'ai senti une forte contraction. Et d'ailleurs, ça faisait déjà une semaine que tous les soirs, je m'endormais avec le bassin douloureux, fragmenté. Et j'étais sûre que j'allais accoucher la nuit qui allait venir. Et puis, je me réveillais le matin comme une fleur, toute fraîche, quoi. Pendant une semaine, je m'attendais toutes les nuits à accoucher, mais non.
Le fameux faux travail, que je déteste ce mot, le pré-travail. Donc.
C'est ça, ouais. Clairement, c'était un long pré-travail. Et puis, il y a eu une nuit où tout à coup, je me suis réveillée avec une contraction. Et du coup, on a appelé ma mère pour qu'elle vienne finir la nuit chez nous, puisqu'on ne voulait pas réveiller notre fils. Et puis, elle est venue. Et puis, j'avais un petit peu quelques contractions. Mais on a pu tous se rendormir. Et le lendemain matin... En fait, j'avais pas grand-chose. Et donc, ma mère est repartie. On a gardé notre fils à la maison. Et on a passé toute la journée d'automne. Hein, c'était le 29 octobre. On a creusé une citrouille. On a fait un gâteau. Et puis, j'avais quand même des petites vagues qui venaient, qui repartaient toutes les 20 minutes, qui faisaient un pré-travail, quoi. Et je suis allée toucher mon col moi-même. Et puis j'ai pu quand même remarquer que là, il était mou, qu'il était favorable, quoi. Et comparé au jour précédent, j'ai vu qu'il y avait quelque chose, que j'étais bien en pré-travail. Donc j'ai quand même averti la sage-femme avec un message. Et puis toute la journée, comme ça, tranquille, quelques vagues. Et en fin de journée, on s'est dit, ben, notre fils, il va quand même aller dormir chez les grands-parents. Et donc, vers 17h, mon mari, il l'a amené chez eux. Et moi, je me suis habillée pour sortir. On n'était pas sortis. Donc, quand mon mari est revenu, on est sortis se faire une petite marche dans la brume d'automne, du soir. Et il faisait froid, il faisait pas beau. On n'a pas marché longtemps, mais là, j'ai senti des vagues un peu plus fortes arriver. Je devais m'arrêter, je devais me tenir à lui pour la laisser passer. Et puis après, on pouvait continuer à marcher. Et donc, j'ai senti que c'était bien parti. Et puis, en même temps, on avait ce vécu d'un accouchement qui dure 2 jours. Donc vraiment, on était dans cette ambiance, bah, c'est parti, on verra combien de temps ça va durer.
C'est le début d'une longue aventure. Ouais.
Et on est rentré, on s'est fait à manger, on s'est mis un film... Et puis devant le film, j'avais quand même des vagues de plus en plus fréquentes et de plus en plus fortes. Et puis je faisais un peu des « ah », et puis je bougeais. Et on a commencé à chronométrer et tout à coup, on a remarqué que j'étais toutes les 4 minutes. Et là, on s'est dit « waouh, ça nous est jamais arrivé, quoi !» On a fait la fête parce que j'avais jamais vécu ça, puisqu'avec mon fils, c'était resté toutes les 10 minutes. Et c'est vrai que bah, je les gérais bien, mais je devais quand même me concentrer, souffler. Et mon mari, il a inventé une super technique. Il me soufflait des « ah » dans mon sacrum. C'était très drôle. Il mettait sa bouche sur mon sacrum et il faisait des vibrations pendant la contraction. Et c'était agréable. Ça me diffusait de la chaleur et des vibrations. C'était, voilà, c'est une technique de doulot. Je dis que c'était mon doulot, mon mari. Et alors, on a appelé la sage-femme à ce moment-là. Quand on lui a dit que j'étais toutes les 4 minutes, elle m'a entendu parler, mais elle a entendu que j'étais pas vraiment... J'arrivais pas bien à lui parler. J'avais touché mon col, je lui ai dit que je pense qu'il était ouvert à 3-4 cm. Je suis pas sage-femme, je sais pas trop faire, mais j'ai remarqué qu'il y avait une ouverture. Elle a dit « Ok, je prends une douche et j'arrive ». Nous, on était étonnés, on s'est dit « Ah bon ?» On pensait qu'elle allait nous dire « Ok, rappelez-moi dans 1 ou 2 heures pour me dire où vous en êtes », mais non, elle a dit « J'arrive ». Bon, bah, c'est que ça doit être parti alors. Et là, j'ai dit que j'avais envie d'aller m'installer un peu dans la chambre qu'on avait prévue. Mon mari, il a mis des musiques qu'on avait prévues, des mantras. Et puis, on a allumé les bougies. Puis, j'ai commencé à me mettre à quatre pattes sur le ballon. Et puis, à plonger vraiment dans les vagues. Et elles étaient de plus en plus fréquentes, de plus en plus fortes. Et j'étais vraiment de moins en moins là, vraiment dans ma bulle. Et à un tel point qu'elles ont augmenté, il n'y avait presque plus de répit, quoi. Et là, je ne savais plus où mettre, je ne contrôlais plus rien, en fait. J'étais complètement emportée par les vagues. Et à un moment donné, mon mari, il était en tailleur par terre et j'étais blottie contre lui, vraiment. J'avais ma tête dans son ventre. Je sais pas où j'avais mon bassin, mais je pense que je le bougeais dans tous les sens et je faisais des « ah ». Mais c'était des « ah » plutôt agréables. C'était pas des cris, c'était vraiment pour comme signaler l'intensité que je vivais. J'avais besoin d'exprimer à haute voix ce que je vivais et je le faisais à travers des sons. Et du coup, quand ça montait, mon « ah », il montait. Puis après, quand la vague redescendait, je faisais un peu des « ouh, ah ». Et voilà, si les voisins nous ont entendus, je pense qu'ils ont cru qu'on faisait autre chose.
Ouais.
C'était plus des cris de plaisir que de douleur, quoi. Ouais, je l'ai vraiment vécu comme ça. J'ai pas eu peur, j'ai pas eu mal. J'étais vraiment... j'étais dedans. Et jusqu'au point où tout à coup, j'ai dit... il y a quelque chose qui sort. Et je sais pas, en fait, c'était pas le bébé parce que j'avais pas perdu les os, j'avais pas perdu le bouchon muqueux. Donc, c'est quelque chose, j'avais raison, c'était le bouchon muqueux. Et il m'a aidé à enlever ma culotte. En fait, j'étais un peu à quatre pattes par terre. Il m'a enlevé ma culotte et il y a le bouchon muqueux qui est sorti avec. Et la vague suivante, j'ai eu le temps à peine de lui dire de me mettre une alaise. Ou, je sais plus, il était en train de changer l'alaise qui était sous moi, qui avait réceptionné le bouchon muqueux. Il était en train de la changer et d'en mettre une autre. Et là, j'ai perdu les os sur ses mains. Et la sage-femme n'était pas là, hein, bien sûr. Du coup, j'ai senti que ça poussait. Et je disais, elle arrive, ou je sais plus, ou je disais, ça pousse. Enfin bref, j'ai dit un truc, quoi, comme quoi c'était maintenant. Et puis, je m'en rappelle que j'ai rassemblé toute mon énergie pour amener un pied devant moi, pour me mettre à quatre pattes avec un pied au sol, donc comme une demande en mariage. Tu vois, un genou au sol, un pied à terre, et pour avoir les mains libres, en fait, parce que quand t'es à quatre pattes, t'as pas les mains libres, ou t'as qu'une main au sol, puis l'autre main qui est libre. Mais là, j'étais stable dans mes jambes, et j'avais mes deux mains libres, et je suis allée toucher. Tout mon corps poussait, mais moi, je poussais pas. Enfin, vraiment, j'ai eu l'opposé de l'accouchement de mon fils, là. J'ai eu le réflexe d'éjection du fœtus, c'est-à-dire que je ne m'y attendais pas que ça arrive à ce moment-là. Et tout à coup, il y a vraiment eu ce truc qui m'a traversé, où il y a une force qui allait vers le bas, quoi. Et du coup, j'ai mis ma main et j'ai senti son petit crâne qui arrivait. Et je n'en revenais pas, parce que vraiment, je ne m'attendais pas à ce que ce soit déjà le moment. Mais du coup, je l'ai accueilli trop contente. Cette sensation, ce petit crâne dans ma main, je l'ai senti. Et il y a eu, je crois, un aller-retour où il y a juste une fois, je l'ai senti. Ensuite, elle est rentrée. Et très vite, il y a la vague suivante qui est arrivée où j'avais toujours ma main sur son crâne. Et j'ai senti que vraiment, elle sortait, quoi. Que sa tête sortait. Et c'était une telle puissance que j'ai plutôt freiné sa sortie avec ma main sur sa tête pour pas que ça fasse trop fort. J'ai laissé mon corps pousser, mais ma main freinait un petit peu, guidait sa sortie. Et la tête était dehors. Et puis là, c'était un moment suspendu où j'étais trop heureuse d'avoir sa tête qui était dehors. Et mon mari, Il était un peu derrière ou à côté, mais en tout cas, il a eu un petit tête-à-tête avec son visage qui était encore tout cireux, tout fermé, parce qu'à moitié dehors, à moitié dedans, il me disait « Ouais, je la vois, je la vois !» Et puis moi, je la sentais avec ma main, je savais bien qu'elle était là. Et il y a eu ce moment vraiment de joie qu'elle était là. Et puis, au bout d'un moment, dans ma tête, j'ai commencé à me dire « C'est normal qu'il ne se passe plus rien !» J'espère qu'elle n'a pas le cordon. Enfin, j'ai commencé à m'inquiéter. Lui, il ne me l'a pas dit, mais à ce moment-là, il était paniqué quand même. Il essayait d'appeler la sage-femme.
Ça peut sembler long, hein, cette période.
Ouais, ouais, mais j'ai aucune idée. Je pense que ça n'a pas duré très long. Mais aucune idée de la notion du temps de ce moment-là. Mais tout à coup, vraiment, à peine, j'ai commencé à m'inquiéter que j'ai senti dans ma main que le corps commençait à vriller, à faire sa spirale. Et ça m'a tout de suite rassurée, je me suis dit c'est bon. Et là tout à coup je me suis dit ah faut la rattraper, donc j'ai dit genre faut l'attraper. Il est venu mettre sa main dessous, moi j'avais ma main sous sa tête et elle est un peu tombée au sol sur la main de son papa avec la tête dans ma main. Et avant même que je la regarde, elle a poussé un petit cri parce qu'elle est tombée, ça lui a fait un petit choc. Et juste d'entendre ce petit cri, je me suis tout de suite rassurée aussi parce que ben, je savais qu'elle était vivante tout simplement. Et après ça, j'ai pu la regarder, je me suis accroupie, elle était couchée par terre, je me suis accroupie, je l'ai regardée, je l'ai pris contre moi. Elle n'a pas pleuré, elle s'est juste mise à respirer. Et ouais, c'était fou, quoi. Et j'avais accouché toute seule, quoi. J'avais enfanté sans personne. C'était magique. Et puis la sage-femme est arrivée à ce moment-là, juste quand je l'avais dans mes bras, que j'étais accroupie, elle était pleine de vernix, on était en train de l'accueillir, lui souhaiter la bienvenue. Et donc la sage-femme est arrivée tout doucement, elle était surprise de voir qu'il y avait un bébé. Le premier truc qu'elle nous a dit, c'est « Vous avez regardé l'heure ?» Et puis... c'est vrai qu'on n'avait pas regardé, mais donc on a regardé un peu à ce moment-là. Puis après, comme mon mari avait essayé de l'appeler, ils ont pu un peu déduire l'heure de sa naissance par rapport, rapport aux appels en absence et tout ça. Et moi, j'ai même pas regardé la sage-femme, quoi. J'étais avec mon bébé, je savais qu'elle était là, ça m'a rassurée. Je lui ai pas parlé, c'est mon mari qui lui parlait. Elle m'a aidée à m'installer sur le lit. Et là, on voulait pour cette fois que le placenta il sorte avant de couper le cordon. Donc, je l'ai couchée sur moi, elle a cherché le sein, elle l'a trouvé toute seule, elle a commencé à téter. Et puis ça a fait venir des contractions du placenta. Et là, encore une fois, c'était hyper agréable de le sortir. Et la sage-femme nous a aidé à emballer. On a emballé le placenta dans une serviette. Et puis, j'avais sur mon ventre, j'avais mon bébé et mon placenta, tous les deux liés. Et puis, elle nous a laissés tranquilles. Elle est partie dans notre salon. Puis, nous, on est restés tous les trois comme ça pendant longtemps. Je pense qu'on est restés au moins 2 heures avant de couper le cordon. Et on s'est rendu compte au bout d'un moment que ce cordon froid, ça la dérangeait. Elle bougeait un peu, elle chouinait un peu à chaque fois qu'elle était en contact avec ce cordon tout froid. Toi aussi, non ? Tu t'as pas
Moi, c'est pareil, ouais. Complètement. J'ai pas du tout aimé le contact du cordon froid. Alors, on m'a dit plusieurs fois qu'après, ça se réchauffait. Mais il y a quand même un stade où c'est pas forcément...
Ouais, c'est ça. Ben, moi, j'ai pas aimé non plus. Puis du coup, ça m'a confortée dans l'idée de le couper à ce moment-là. Mmh. Et ben, aussi, on l'a fait aussi en conscience. On a expliqué d'abord, avant de le faire, on a dit à notre fille, maintenant, la nourriture, elle passe par les seins. Et puis, ton placenta, il a plus besoin... Enfin, t'as plus besoin de ton placenta, t'as plus besoin de ton cordon. Donc, on va le couper. Et puis, je trouve que c'était bien de le faire vraiment comme ça, en conscience, de lui dire, quoi. Et après, l'allaitement, c'est super bien passé. Je sais pas si c'est grâce à ça, mais en tout cas, c'était important pour moi qu'elle comprenne que la nourriture, maintenant, elle venait de là, quoi. Et je voulais rajouter que les jours qui ont suivi l'accouchement, quand je mettais ma main sur le crâne de ma fille, quand je l'allaitais par exemple, j'avais toute la mémoire de l'accouchement qui revenait. C'était vraiment magnifique, cette sensation par le toucher, d'avoir toutes les autres sensations qui me revenaient. Et ça m'aidait à le revivre, à l'intégrer, à revivre ce moment. C'était vraiment beau. Et pour le postpartum, on avait prévu cette fois de faire un peu 40 jours tranquille. Donc au début, je suis restée dans ma chambre, dans notre lit avec... avec ma fille, on n'a pas quitté la chambre pendant une semaine, je crois. Le lendemain, il y a eu une autre fille qui est venue avec ses grands-parents. Donc, c'était un peu les seules visites qu'on a eues dans les premiers jours. C'était les quatre grands-parents. Et on lui a présenté sa sœur. C'est à ce moment-là qu'on avait vraiment choisi son nom. On a attendu le lendemain matin. Et c'était la première chose qu'il voulait savoir, en fait, c'était comment elle s'appelait. Et elle s'appelait Amina. Et il était tout content, il lui a fait un bisou, puis après il est parti jouer au Lego.
Et hop là, la vie reprend
exactement
son cours.
Exactement. Les 40 jours comme ça, tranquille, ça a été très bénéfique. Je le recommande vraiment à toutes. Déjà... la première semaine de rester couchée, après la deuxième semaine, on a commencé un petit peu à aller au salon. Moi, j'ai commencé à manger à table et ça a permis aussi de prendre notre rythme, de prendre nos marques. Ça a permis d'établir un peu un rythme de famille, de se rencontrer tous et puis de s'habituer à cette nouvelle vie. Et puis j'ai commencé à sortir, je ne suis pas restée dedans pendant 40 jours quand même, mais pendant bien deux semaines je suis restée dedans. En plus c'était comme maintenant, là. Elle vient d'avoir 3 ans, elle est du 29 octobre, donc c'était un temps à rester dedans. Et quand j'ai fait les premières sorties avec elle en écharpe, c'était juste des petites balades au parc, c'était pour voir la première neige. Voilà, c'était pas aller faire des courses dans les supermarchés, quoi. Et ça, c'est l'avantage aussi d'être indépendant. Mon mari, il avait vraiment pu mettre en place un mois où il avait presque rien. Ouais, j'ai adoré. C'était vraiment une... comment on dit? Une lune de miel avec le bébé. Une baby moon, voilà.
Une baby moon.
Ouais. Et je disais qu'elle était mon doudou et que mes seins, c'était son doudou, quoi. Parce qu'on était tout le temps scotchés l'une à l'autre. Elle tétait à longueur de journée. Et du coup, moi, j'avais rien d'autre à faire que juste la laisser téter. Et puis, c'était très bien comme ça. Ouais, je crois que les deux premiers mois, elle faisait des très longues tétées. Elle tétait toute la journée, quoi. Et puis, tout à coup... à deux mois, ça a switché sur un autre mode où elle tétait 10 minutes, puis après c'était bon pour plusieurs heures.
D'accord.
Mais du coup, c'était bien d'avoir le temps de laisser faire ça, quoi. Mmh. Ouais.
Carrément. C'est chouette.
Quelle
belle histoire. C'est tout doux. Ouais, carrément.
Merci.
Si tu avais, toi, un conseil ou quelque chose qui vraiment, tu penses, peut faire la différence. J'ai l'impression que c'est ces 40 jours, prendre ces fameux 40 jours du postpartum.
Ben oui, à ce niveau-là, pour le côté émotionnel, ouais, vraiment. Je pense que c'est important de se préparer au postpartum, de se préparer à l'avance, ouais. Et sinon, je sais pas, j'ai envie de dire aussi aux femmes que chacune de leur histoire est valable, qu'il faut s'écouter et se faire confiance. Ouais, d'aller écouter cette intuition, cette petite voix intérieure.
Ouais, c'est chouette. Merci beaucoup.
Merci à toi. C'était un plaisir.
Merci. J'espère que vous avez passé un beau moment. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, mais également à partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. je fais le choix de ne pas proposer de publicité. Vous pouvez contribuer au podcast et participer financièrement via le compte Tipeee Enfanter et Devenir. C'est une belle façon de soutenir ce projet, de le voir grandir et se pérenniser. J'ai même prévu de jolies contreparties à découvrir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.